À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Saint François Jacquard. Saint François Jacquard est malheureusement très peu connu, mais c'est un homme courageux, c'est un Français qui a décidé au début du siècle dernier, puisqu'il est mort, il a été exécuté en 1838. C'est vraiment un saint d'aujourd'hui, un prêtre des missions étrangères de Paris, qui a été martyrisé au Vietnam. Au Vietnam, où surgissait à ce moment-là une persécution épouvantable qui a été dramatique. C'était l'empereur Minh Mang qui a décidé d'en finir avec les chrétiens. Il en est un peu aujourd'hui la même chose. Hein, quand on lit des articles parus dans Jésus-Marie Notre-Temps au sujet du synode pour l'Amérique, cette extraordinaire expérience de l'Église qui se sont penchés sur la mémoire des martyrs. C'est un article qui est paru dans l'Osservatore Romano du 3 février de cette année. Eh bien, l'évêque auxiliaire de San Salvador, ça vous dit quelque chose, San Salvador, où est mort Monseigneur Oscar Romero, en disant la messe, il a été exécuté, martyr. Eh bien, c'est en 1983 que le pape l'a appelé pasteur zélé, que l'amour de Dieu et le service envers les frères ont poussé jusqu'à offrir sa propre vie, qui lui fut arrachée d'une façon violente. Et c'est la même chose pour Saint François Jacquard. Et on se rend compte, quand on lit les documents, que les évêques déclarent, nous vivons dans une église... Aujourd'hui, là, de martyrs. Ça date de cette année, ce texte. Nous vivons dans une église de martyrs et nous sommes une église martyrisée et persécutée. Voici la preuve digne de foi que l'Évangile a été accueilli par les hommes et les femmes de nos communautés. Une preuve qui porte le signe de la croix et de la résurrection à cause de l'amour envers Dieu et envers les frères. On ne meurt pas pour une religion. On meurt parce qu'on aime Dieu et qu'on veut respecter aussi cet amour que Dieu nous porte. Et parce qu'on aime ses frères. Un martyr, c'est ça. C'est bouleversant quand on lit et quand on voit ce qu'ont souffert les martyrs. Êtes-vous déjà allé à la salle des martyrs du séminaire des missions étrangères auquel appartenait Saint François Jacquard, la salle des martyrs, qui est là, à droite de la chapelle de la médaille miraculeuse rue du Bac. C'est 128 rue du Bac. C'est ouvert tous les jours, de 9h du matin à 19h le soir. Et on se rend compte là que si les premières missions se sont dirigées dans l'Empire romain, au 16e siècle, après les découvertes de Christophe Colomb, de Vasco de Gama et de Magellan, les missions sont devenues mondiales. Hein? Et on a des traces des premiers missionnaires qui ont été massacrés, c'est incroyable. Et le grand personnage de ces missions, c'est Saint François-Xavier, dont je vous ai parlé déjà. C'est en 1663 que se fonde le séminaire des missions étrangères à Paris. Et ils ont cherché, parmi les catéchistes autochtones dans les pays de mission, ceux qui seraient capables de devenir prêtres. Or, au Vietnam, il y a beaucoup de prêtres vietnamiens qui ont été tués, martyrisés. Il ne faut jamais oublier, quand on parle des missionnaires français, qu'il y a aussi d'innombrables prêtres du Vietnam, de la Corée, de la Chine, etc. Et quand on visite la salle des martyrs, il est possible, si on veut, de n'y voir qu'un musée d'objets, ou même un musée des horreurs, mais c'est pas un musée des horreurs. Quand on envisage les choses de plus haut, puis qu'on regarde ces instruments de torture, et qu'on voit aussi les châsses dans lesquelles sont conservés les restes de ces saints, c'est comme un grand cri, une grande proclamation de l'Évangile, qui se fait de par le monde entier devant nous dans une salle. Et c'est là que s'exprime avec autant de réalisme, je dirais même de candeur, de simplicité, la foi des chrétiens d'Extrême-Orient pour lesquels j'ai une énorme admiration. Donc c'est à la fin tourmentée du 18e siècle que dans un beau petit village de Savoie qui s'appelait Oignon, mais pas Oignon comme un oignon, mais O-2-N-I-O-N, qui a un couple de paysans très pauvres, des chrétiens, de bons chrétiens, qui reçoivent souvent pendant la Révolution française des prêtres réfractaires et qui trouvent refuge dans ce, chez ce couple, et que se déroule un peu un certain malheur parce que ces deux chrétiens, Marin Jacquard, puis sa femme, Marie Monge, sont comme dans l'Ancien Testament, on en parle parfois, des couples stériles qui, tout à coup, vont mettre un enfant. C'est en 1799, comme on s'apprêtait à changer de siècle, que Marie Monge, Madame Jacquard, se trouve enceinte après plus de 20 ans de mariage. 20 ans qu'ils ont attendu. Elle est âgée de 47 ans, imaginez, puis elle met heureusement au monde un garçon qu'elle appelle François. Saint-François Jacquard est né. Alors, pour Marin Jacquard et sa femme Marie, c'est vraiment l'enfant du miracle. Et certainement, il deviendra prêtre. Et pour devenir prêtre, bien, il faut étudier. Et c'est pas commode dans ces campagnes qui sont complètement désorganisées au moment de la Révolution française, après la Révolution. Certains curés ouvrent une petite école dans leur presbytère, heureusement. Et quand François Jacquard a 10 ans, sa mère le présente à la paroisse proche de Méjouvette. Joli nom, Méjouvette. Peu après, l'enfant est renvoyé à ses parents parce qu'il n'est pas assez doué. Pas assez doué. Alors, Madame Jacquard fait une deuxième tentative à Saint-Jouard. C'est un bénédictin, ça, du 11e siècle, Jouard, qui s'appelle de différentes façons. Et ça aboutit à un deuxième échec dans ce petit village de Saint-Jouard. Mais la mère croit, elle, en son fils. Et quand elle apprend qu'un prêtre vient d'ouvrir un collège à Mélan, en vue surtout de préparer des sujets qui vont être destinés aux missions lointaines, qui fascinent les gens, elle n'hésite pas à les faire admettre. Et dans ce milieu plus évolué, l'enfant, qui n'est jamais sorti de son trou, a tout pour être un pauvre innocent, comme on dit souvent, un péquenot. Puis on le met en boîte. Mais cette fois, c'est lui qui est excédé. Il est fâché. Il s'enfuit du collège, puis retourne chez ses parents. Il n'endure pas ça. Il a sa fierté. Cette fierté qui va faire de lui un saint quand elle sera transformée par le Christ en vertu, véritable vertu. C'est beau d'avoir un enfant qui a quelques petits défauts comme ça, parce qu'on peut tabler là-dessus pour qu'un jour, Dieu s'empare de tout ça et le transforme. Mais allez donc savoir, un jour qu'il travaille au champ, il voit passer sur le chemin deux de ses camarades de Mélan, justement, qui le reconnaissent, ils l'ont vu au collège. Ils plaisantent avec lui. « Où allez-vous? » demande-t-il. « Au collège. Les vacances sont finies. »« Ah, ben, il dit, je vous suis. » Et là, François Jacquard fait son baluchon. Il embrasse ses parents. Puis au collège de Mélan, ben, on l'accueille sans trop de difficultés, heureusement, et les études reprennent. Ils reprennent même si bien qu'il va les achever parmi les meilleurs élèves, et alors c'est le grand séminaire de Chambéry. Chambéry, c'est là qu'a été conservé pendant un bon bout de temps le Saint-Suaire de Turin, où il a failli brûler complètement en 1532. Donc c'est au grand séminaire de Chambéry qu'il va, pour devenir prêtre. Les parents sont aux anges, hein. Ils sont plus jeunes, mais ils sont contents. Leur fils sera prêtre. Monsieur Marin Jacquard est alors âgé de 82 ans. Il sait que sa fin approche. Hein? Alors il dit à sa femme Marie, « Il priera pour nous. Nous irons tous les trois en paradis. » Mais pour François, François Jacquard, Saint-François Jacquard, Chambéry, ce n'est qu'une étape. Et là, à Mélan, on lit toujours au réfectoire les lettres édifiantes. J'en ai déjà parlé de ça, les lettres édifiantes. Ce sont des livres qui paraissaient, qui nous permettaient de lire les lettres édifiantes des missionnaires qui racontent leur évolution, puis souvent le martyr de leurs confrères. Ils lisent aussi les annales de la propagation de la foi. Que j'aimais lire ça quand j'étais jeune. Ça fait rêver. Et François Jacquard se présente au séminaire des missions étrangères, finalement à 22 ans, en 1821. Il y est ordonné prêtre 2 ans plus tard. Ça va vite, en 1823. Il revient au village natal pour ses dernières vacances. Et là, quand le nouveau prêtre et sa mère se trouvent face à face, prêts à se séparer pour toujours, ils tombent à genoux l'un devant l'autre. Ils passent de douces semaines ensemble, si douces que Madame Jacquard commence à s'interroger. Son fils est prêtre. Et s'il restait dans sa voie, dans le sud de la France, vous savez, au pied des Alpes, là, dans les Alpes, la Savoie. Mais François Jacquard remet les choses au point. Il est prêtre des missions étrangères. Il a déjà reçu sa destination, qui est la Cochinchine. La Cochinchine, c'est le sud de l'Indochine. Le nord, c'est le Tonkin. La partie sud du Vietnam. C'est là qu'il y a la capitale, Saïgon. Et Marie Jacquard, sa mère, comprend. C'est une vraie chrétienne. Elle accepte. Un enfant du miracle n'est pas forcément un enfant du bonheur, selon les idées reçues. Et elle se souvient de ce texte de Saint Luc. Et toi, une épée te transpercera l'âme. Alors voilà encore autre chose. Saint François Jacquard, je l'appelle déjà saint, a fait si bonne impression durant ces 2 années de séjour qu'à son retour de vacances, le conseil des directeurs du séminaire des missions étrangères lui propose de la mettre parmi eux comme membre de la communauté de ses prêtres séculiers. Nous avons une communauté des missions étrangères à Pont-Viau, à Laval. Ça, c'est les missions étrangères de Paris. Alors, François Jacquard répond, comme il l'avait fait à sa mère, « Destination, la Cochinchine, et je deviendrai membre. Sinon, il préfère retourner dans sa Savoie, qui a bien besoin de prêtres, alors on n'insiste pas, on lui accorde la Cochinchine. » François Jacquard embarque le 23 juillet 1823, à 24 ans, à Bordeaux, pour le Cap de Bonne-Espérance, c'est à l'autre bout du monde, et Calcutta. La traversée sera gâtée par la grossièreté dont les matelots font délibérément preuve en sa présence. Mais François Jacquard y en remarque quelques-uns de ses matelots. Puis là, il semble gêné, eux autres. Il prend contact, et peu à peu, il est tout jeune encore, hein? Il prend contact, et peu à peu, il sait s'imposer. De sorte qu'après 5 mois de navigation, aucun matelot se croit plus obligé de niaiser puis de dire des cochonneries en croisant le jeune prêtre. À Calcutta, François Jacquard va rester plusieurs mois en attente. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a une occasion pour Macao, siège de la procure des missions en Extrême-Orient, puis c'est l'escale obligée pour pénétrer en Chine et au Vietnam, en Cochinchine. Et le jeune prêtre en profite pour faire du ministère. Facile, à Chandernagore, c'est un satellite français de l'énorme ville. Eh bien, ses services sont fort appréciés. Si appréciés même que le gouverneur lui fait part d'un projet qui lui tient à cœur, la fondation d'un collège dont on lui confierait la direction. Oh, c'est tentant. Que demander de plus? Mais il est en mission, lui. Et l'exotisme, l'Inde, lui en met plein les yeux. Les Bengalis sont la douceur même, sont très gentils. La langue de culture, c'est le français. Le voilà immédiatement opérationnel. Alors, Paris est mis au courant et semble intéressé par le projet. Mais ici, il est désiré, fêté, choyé, d'accord. Et Jacquard a soudain l'impression que quelque chose ne va pas, mais que tout s'emberlificote pour l'empêcher de poursuivre sa quête. Sa mère, puis ces messieurs de Paris, et maintenant le gouverneur, et toute la colonie de Chandernagore. Mais décidément, partout il passe, on l'aime et on voudrait le retenir. Mais il apprend que le 20 août 1824, un navire anglais met la voile à la destination de Macao, et là, il rompt les amarres, et il part, il est missionnaire, il veut aller en Cochinchine. Et alors, notre jeune missionnaire de 25 ans, François Jacquard, prêtre des missions étrangères de Paris, 25 ans seulement, apprend donc, comme je viens de vous le dire, que le 20 août 1824, il y a un navire qui part à destination de Macao. Alors là, il décide de couper ses liens avec l'Inde, où il n'avait fait qu'un petit séjour, un bref séjour, et la mer, par ses vents contraires puis le calme plat, semble vouloir qu'il ne parte pas. Et le navire va arriver à Macao que le 20 novembre, après 2 mois plutôt difficiles en mer. Son voyage, au total, aura duré 16 mois. 16 mois, vous vous imaginez? 1 an et 4 mois. Il n'est pas encore au but, mais il a 25 ans et il est plein d'espérance. Et Jacquard, père Monsieur Jacquard, comme on l'appelle, quitte la procure de Macao, donc, à la fin de mai 1825. Il embarque sur une jonque chinoise à destination du Vietnam, et plus précisément du nord du Vietnam, le Tonkin, qu'il va falloir traverser dans toute sa longueur pour atteindre le sud, la Cochinchine, sa mission. C'est pas facile. Mais le pays d'abord, hein, c'est l'Empire du Vietnam, qui a été créé au début du siècle par Gia Long, qui a réuni les deux royaumes de la Cochinchine et du Tonkin. Alors, durant les 20 années de son règne, le jeune empire a joui de la paix puis de la liberté religieuse. Gia Long est mort finalement, est mort en 1820, avant que François Jacquard arrive. Et malheureusement, son successeur, Minh Mang, n'a ni l'envergure ni la largeur de vue de son père. C'est Minh Mang qui aura raison de François Jacquard et qui le fera exécuter. C'est terrible. Parce que c'est un esprit soupçonneux que ce Minh Mang. Oui. Un roi difficile. Il est xénophobe d'abord, il déteste les étrangers. Il prend même plus la peine de dissimuler sa haine du christianisme non plus. Alors l'acclimatation, c'est difficile, l'acclimatement si vous voulez. Tout y passe, hein? Plus ou moins sévèrement. François Jacquard, ça va lui coûter cher. Il attrape des fièvres violentes qui sont suivis d'hydropisie généralisée. Et c'est long et douloureux. La convalescence se prolonge jusqu'au début de l'année suivante, en 1826. Comme tout le monde, il y laisse des plumes. Puis, quand il reprend le dessus, au moment de partir pour la Cochinchine, pour le sud donc, il trace ainsi son autoportrait à sa pauvre mère, Marie Jacquard. Il lui écrit « Si vous voulez avoir une idée de ma belle personne, maman, figurez-vous un homme assez grand, passablement maigre, nu-pied comme un chat, assis par terre comme un singe, portant un large pantalon, un long habit noir à manches pendantes, de la barbe comme un capucin, une moustache et une pipe comme un grenadier. » Vous savez, les soldats, les grenadiers de Napoléon. « Un turban comme un turc. Et voilà le monsieur que je suis. » Si j'étais à portée d'avoir un peintre, maman, je vous ferais tenir mon portrait. Alors, sous la conduite d'un guide fidèle, François Jacquard arrive secrètement dans sa mission au collège de Phuong Wu. Et c'est proche de la capitale impériale, Hue, où Minh Mang, l'ennemi des chrétiens, règne dans sa puissance. Le supérieur de M. François Jacquard, c'est M. Tabert. T-A-B-E-R-D, qui est heureux d'accueillir son jeune confrère qui augmente du tiers l'effectif missionnaire de la Cochinchine. Comme quoi, ils ne sont pas nombreux, ils étaient 2, ils sont 3 maintenant. Alors, de fait, il n'y trouve à cette époque que M. Cagelin, qui a 27 ans tout seulement, et M. Tabert, qui a 31 ans. Ce sont des jeunes. Des jeunes qui ont un courage sans borne et qui aiment Dieu par-dessus tout et qui veulent faire connaître le nom de Jésus-Christ et son amour. Où sont ces gens aujourd'hui qui ont toute cette fraîcheur, cette volonté, ce désir, cette passion? Il y en a. Mais je pense qu'ils vont nous venir de l'étranger pour nous évangéliser. Alors, M. Tabert signale l'événement au directeur de Paris. Il écrit... Nous avons longtemps désespéré de rencontrer M. Jacquard en ce monde, et le voilà près de nous. M. Jacquard parle peu. C'est un bien bon confrère. Si Dieu lui accorde plus de santé, ce sera un bon missionnaire. Que Tabert se rassure, M. Jacquard tiendra 12 ans et dans des circonstances extraordinaires. Et d'après le portrait qu'il trace de lui-même à sa mère, Jacquard ne ressemble donc plus tellement au merveilleux jeune prêtre qu'on a pu admirer en Savoie, à Paris puis à Chandernagore. Il se réjouit de cette métamorphose, ça ne l'inquiète pas, car l'empereur s'intéresse surtout aux jeunes missionnaires auxquels il interdit l'entrée de ses états. Et c'est à eux que ces soldats, ces sbires, comme on dit, font la chasse. Pour les vieux solides, là, comme ceux dont Jacquard a maintenant l'aspect, Minh Mang fait confiance au climat de son pays, dur aux Européens. Les Européens ont bien de la difficulté à vivre là. Alors, François Jacquard parle du tyran à son ancien supérieur du Collège de Milan. Voici ce qu'il dit en quelques mots. Écoutez bien, ça c'est incroyable, c'était vraiment un étrange personnage que ce Minh Mang. Le roi actuel a oublié les services que lui ont rendus les missionnaires. Il ne veut plus avoir de rapport avec les Européens. Et il nous accuse de corrompre son peuple en lui enseignant une doctrine perverse. Pour lui, il est tout dévoué à ces dieux de bois, les statues, qu'il ne traite pas toujours bien. L'an passé, comme ils étaient sourds à ses prières qui leur demandaient de la pluie, il fit fouetter ces dieux de bois publiquement et il les a fait jeter au fleuve. Étrange. C'est vrai qu'il y avait du Néron, l'empereur Néron, hein, chez cet homme-là. On va le voir faire fouetter, imaginez, des jonques, des bateaux, qui n'arrivaient pas à remonter le fleuve par vent debout. Mieux, il va faire fouetter, enchaîner et mettre à la gangue la tombe du premier mandarin de l'Empire, qui jusqu'à sa mort s'est opposé à la persécution religieuse. Et cette persécution dont on parle continuellement, trop d'après certains, qui estiment tout danger écarté. Oh, ce n'est pas l'avis de M. Jacquard. Je n'y compte pas, il y a trop longtemps que le ciel gronde, il doit nécessairement se préparer une tempête, il est prêt. Alors M. Jacquard, François Jacquard, Saint François Jacquard, qui a profité de sa longue convalescence au Tonkin pour travailler la langue vietnamienne, bien, il commence à visiter les chrétientés voisines de la capitale. Il sera bientôt le seul en mesure de le faire, car l'empereur Minh Mang vient d'avoir une idée de génie. Il réquisitionne M. Tabert et M. Cagelin, ses deux confrères, en qualité de traducteurs-interprètes. Il les met ainsi dans l'impossibilité d'accomplir leur ministère sacerdotal de missionnaires catholiques. Après 6 mois de travaux intensifs, les deux prêtres comprennent qu'ils sont en fait prisonniers au palais. Ils arrivent à mettre discrètement au courant de leur situation le premier mandarin de l'Empire, vice-roi de la Basse-Cochinchine et ami des chrétiens. Alors, cet ami des chrétiens intervient de toute son autorité. Il les fait libérer. L'incident sitôt passé, l'empereur Minh Mang requiert toujours dans le même but les services de François Jacquard. Et là, on assiste au début d'un extraordinaire phénomène. Alors, comme on dit, là, d'entrée de jeu, François Jacquard pose une condition. Il résidera, non pas au palais, mais dans une chrétienté voisine de Hué. Vous connaissez ça, la ville de Hué, on a assez parlé de ça il y a quelques années. Hein. Condition acceptée, donc. Et sans doute, les protestations du premier mandarin ont porté fruit, mais François Jacquard se met au travail, comme l'avaient fait M. Tabert et Cagelin, ses confrères, qui, semble-t-il, n'ont jamais eu de rapport avec leur employeur que par intermédiaire. Mais avec le nouvel interprète, les choses vont bientôt changer. Écoutez bien ça, l'empereur réclame des précisions sur tel ou tel sujet, puis il en vient à faire appeler auprès de lui son nouvel interprète, François Jacquard. Et l'impensable se produit. Il y a d'interminables dialogues face à face, en tête à tête, entre l'empereur Minh Mang et Saint François Jacquard. Il ne s'agit plus seulement de traduction, mais d'explication. Alors, les cartes géographiques fascinent l'empereur. Est-il angoissé de voir ses états représenter si peu de choses à l'échelle du vaste monde? Puis là, il demande de véritables cours d'histoire. La Révolution, Napoléon, la conquête des Indes par les Anglais, et puis le christianisme. Il se fait expliquer des petites gravures un peu naïves, populaires, venues là sans doute par des navires espagnols ou portugais, puis François Jacquard en profite pour donner de bons conseils à son élève, mais la situation était trop fausse. Ça pouvait pas s'éterniser, d'autant plus que le missionnaire s'est lié avec plusieurs hauts mandarins de la cour, puis il sympathise même avec le prince héritier, le fils de l'empereur, et il avance habilement ses pions à l'occasion du 40e anniversaire de l'empereur Ming Mang. François Jacquard ordonne des prières publiques pour ses chrétientés, et cela donne lieu à des cérémonies dont la solennité impressionne tout le monde, même l'empereur, mais ça va lui jouer un bien mauvais tour, vous verrez. Il épate l'empereur par des prières publiques dans ses chrétientés, des cérémonies, des solennités. Le coup a été bien monté. Là, en 1830, les païens de Duong Son, le village où résidait François Jacquard, l'accusent d'avoir conduit les chrétiens à piller leur maison. C'est pas vrai. Puis comme l'accusation ne tient vraiment pas devant le tribunal et que le tribunal piétine, alors les païens ajoutent le grief de prédication d'une fausse religion prohibée dans l'Empire. Alors qu'il n'y a absolument aucun édit de persécution qui a encore été promulgué, c'est faux. C'est pas défendu. Alors aucune illusion à se faire. L'empereur est là derrière tout ça. C'est lui qui fomente ça. La preuve, Jacquard, François Jacquard, qui est au fond l'ami de l'empereur, est condamné à mort. Mais l'empereur Minh Mang n'ose pas signer, ratifier la sentence. Il y a alors des troubles au Tonkin dans le Nord. Alors il commue cette sentence en enrôlement dans la milice. Ainsi, François Jacquard devient un bagnard militaire. Mais joyeux. Il a le sourire aux lèvres. Il sait qu'il s'en va vers la mort petit à petit. Mais il est joyeux. Courageux. C'est son supérieur, M. Tabert, qui est promu évêque, qui annonce l'ahurissante nouvelle. M. Tabert est alors au Siam, où il a dû aller pour se faire ordonner évêque, ou se faire sacrer, comme on disait autrefois. Il a déjà choisi François Jacquard comme pro-vicaire, c'est-à-dire vicaire général, si vous voulez. Et maintenant, il le demande comme évêque coadjuteur. Encore jeune pour être évêque coadjuteur. Alors, mis au courant des événements de Duong Son et de Hue, il fait part de son désarroi aux différents directeurs des missions étrangères de Paris. Il écrit, « Monsieur François Jacquard, par la clémence de Sa Majesté Ming Mang, a été condamné à être enrôlé dans la seconde légion de sa garde urbaine. Ainsi, voilà mon provicaire, à qui je me proposais de mettre une crosse à la main et une mitre sur la tête, qui a maintenant un fusil sur l'épaule, la giberne au dos et le casque sur le front, les jours de parade seulement, car ici, on n'est pas dans l'usage de laisser porter aux soldats leurs armes et leurs uniformes très souvent, de peur que le tout ne se détériore. Je ne vous dis pas que mon provicaire ait le sabre au côté, parce que cet insigne n'appartient qu'aux officiers, et lui n'est que simple soldat. Bien plus, comme soldat coupable du grand crime d'avoir prêché la religion, il ne reçoit que la moitié de la paix, c'est-à-dire un sou de France par mois et un demi-boisseau de riz. » On va pas loin avec ça. Voilà l'honorable manière dont Sa Majesté l'Empereur en use envers son premier interprète. Alors, est-ce qu'on a vu comme ça François Jacquard parader dans les rues de la ville impériale? C'est difficile à dire, car Minh Mang, qui semble ne plus savoir ce qu'il veut, commue une deuxième fois la sentence en simple obligation de résider à Hue. Parce qu'il y a du respect quand même pour François Jacquard. En fait, l'empereur sait très bien aussi ce qu'il veut, mais il ne sait comment s'y prendre. Un événement survenu en août 1832 va lui faciliter les choses. François Jacquard a 33 ans. Le premier mandarin, ancien précepteur de l'empereur, puis il l'a élevé quand il était jeune, quoi, maréchal de l'Empire et vice-roi de la Basse Cochinchine, vient de mourir à Saïgon. Et Il tenait le christianisme lui en haute estime, puis il aimait les missionnaires. Et c'est le prestige de cet homme qui retenait depuis des années le bras de l'empereur. La vie des autres mandarins, celui de la mère de l'empereur elle-même, compte moins pour lui que la frousse qu'il avait du maréchal Lee Van Duet. Sa mort de Lee Van Duet libère le souverain. Nombreux. Et l'édit de persécution générale contre les chrétiens est promulgué dès le 6 janvier 1833. C'est le début, écoutez bien, d'un demi-siècle d'horreur. Toutefois, la barbarie même de l'édit va en limiter les effets. Impossible qu'il ait à appliquer à la lettre, sauf à exterminer les sujets par dizaines de milliers. Nos frères catholiques, indo-chinois, qui vont donner leur vie, des jeunes, des moins jeunes, des gens âgés, avec un courage que nous n'aurions jamais probablement, sauf quelques-uns peut-être ici et là. Comment ferais-je si j'étais pris dans un tel problème? Comment font-ils? C'est admirable. En tout cas, pour le moment, c'est la panique et remontée de la basse Cochinchine. Monsieur Cagelin va tenter de calmer les choses en se livrant. Il est interné dans une prison sordide à la citadelle de Huy. Son procès a lieu hors de sa présence. Saint-François Jacquard, lui, va profiter de sa situation saugrenue, de résidence forcée dans la capitale, où on s'était accoutumé à le voir flâner un peu partout pour aller visiter son confrère, deux autres missionnaires, Monsieur de la Motte et le père Odorico, un franciscain italien, et déjà de nombreux chrétiens. Il tient Monsieur Cagelin au courant de la suite des événements. Il lui annonce son prochain supplice par la corde. La corde? C'est abominable, ce supplice. On en meurt. Et il correspond encore avec lui quand il ne peut plus le visiter. M. Cagelin finalement subit son martyr en octobre 1833. Aussitôt, M. Jacquard est appréhendé et condamné à mort pour une deuxième fois. Pour délit de prédication de la religion perverse, comme on l'appelle, la religion catholique. Cette fois, c'est l'impératrice mère qui intervient et rappelle à son fils l'empereur les termes du testament de son père. Pas de persécution religieuse contre le confucianisme, ni contre le bouddhisme, ni contre le christianisme. Car, ajoute-t-elle, les trois religions sont également bonnes et les persécutions occasionnent toujours des troubles dans l'État et attirent des calamités publiques. Et là, une deuxième fois, François Jacquard voit sa peine commuée en détention à vie à la prison d'Ai Lao, située dans une région très insalubre au pied des montagnes. Les pensionnaires qui étaient dans cette prison ne duraient pas bien longtemps. La malaria, au lieu du sabre ou de la corde, achevait les pauvres gens. Mais l'empereur Minmang n'en a pas encore fini avec son premier interprète, Saint-François Jacquard. Avant de l'envoyer en villégiature, il lui demande un petit service. Ce ne sera pas le dernier. Il veut qu'il écrive aux rebelles du Sud, retranchés dans la citadelle de Saïgon. Oui, les administrés de Lee Van Duet, qui étaient favorables au christianisme, avaient entrepris une révolte après la profanation de la tombe du vice-roi sur l'ordre de l'empereur. Parmi ces rebelles, un certain nombre étaient des chrétiens. Alors l'empereur Minmang demande à Jacquard de les rappeler à leur devoir envers le souverain. Ce n'est plus un travail d'interprète, mais de haut fonctionnaire royal. Orateur ou à raison, le missionnaire, Saint-François Jacquard, qui n'est pas enthousiaste du tout, finit par accepter. Il écrit une lettre, mais écoutez bien, dans laquelle il évoque l'obligation de loyauté du chrétien envers le roi, même persécuteur. Et cette rédaction n'est pas du goût de Minmang, parce qu'il a mis « même persécuteur ». Alors, l'empereur demande une rectification. Il va enlever ces mots-là. Saint-François Jacquard fait répondre qu'il a vraiment été au bout de ce qu'il pouvait accepter. L'empereur se charge donc lui-même d'une rédaction expurgée et complétée à sa guise, et il la signe du nom du missionnaire. Elle est envoyée à Saïgon, où elle ne trompe personne. C'est à dos d'éléphant que Saint-François Jacquard arrive à Ai Lao, le 12 octobre 1833. Il a 34 ans. Là, comme ailleurs, il ne perd pas son temps. Il est d'abord l'objet de la compassion des autres prisonniers, puis il reçoit le dernier soupir du père Odorico, dont je vous ai parlé tout à l'heure, condamné en même temps que lui. Il fait la connaissance de rebelles du Laos, des Laotiens, et il se renseigne sur leur pays, dont alors on ne sait à peu près rien. Il ramène à Dieu plusieurs de ses co-détenus, dont un chef de brigand. Et ce saint merveilleux subit, comme tout le monde ici, de terribles crises de paludisme qui font le vide dans la prison. Mais le fait est qu'au bout de 2 ans, Saint-François Jacquard est toujours vivant. On dirait qu'il est auto-vacciné. En 1835, il est transféré à la prison moins malsaine de Camelot. L'empereur s'attendrit-il peut-être? Oh, oh, mais non! Il a seulement de nouveaux services à demander à son premier interprète, François Jacquard, et lui envoie tout un paquet de documents à traduire. Et mieux encore, il lui dépêche 8 jeunes gens pour qu'ils leur apprennent le français. Saint-François Jacquard, depuis longtemps, ne s'étonne plus de rien. Et cette fois, il s'émerveille. Mais voilà, à cette occasion, professeur de Béaba. Qu'en dites-vous? Et ce qu'il y a de piquant, c'est que mes nobles disciples reçoivent chaque mois une mesure de riz et une ligature et demie. C'est-à-dire 1,50 francs à peu près d'aujourd'hui, ça vaut pas cher. C'est même pas un demi-dollar. Il ajoute que le pauvre magistère, lui-même donc, reçoit une ligature seulement, donc 1 franc seulement. Bon. 25 cents. Alors, dans l'Empire, rien ne s'arrange. Jacquard apprend l'horrible supplice du père Marchand. Le père Marchand, écorché vif, a hué. On leur enlevait la peau, vous savez, c'est terrible. J'aime mieux pas trop vous en parler, c'est terrible. Grâce à l'indulgence des mandarins de la prison, il arrive à correspondre avec 2 autres futurs martyrs, Mgr Bory au Tonkin et Mgr Cuineau en Cochinchine. Je vous ai déjà parlé de Mgr Cuineau. Mais j'ai le goût de vous parler de tous ces grands personnages merveilleux, ces saints admirables. Vous pouvez voir leur châsse là, dans la salle des martyrs dont je vous ai parlé tout à l'heure, à côté, à droite de la chapelle de la médaille miraculeuse à Paris, rue du Bac. Mgr Cuineau conseille à Jacquard de se sauver, de s'évader. Mais il répond qu'il a déjà songé à cela et que la chose serait faisable, mais il s'y refuse parce qu'il songe aux représailles contre les chrétiens. Et puis, il dit, les mandarins de Camelot ne manqueraient pas de payer ma fuite de leur tête. Et ceux de la province n'en seraient pas quittes à bon marché, je vous assure, oui, je vous assure que j'aurais un petit scrupule à causer tant de mal à des gens qui ne font pas. Car tout en se soumettant aux ordres de leur maître, l'empereur, ils ne l'exécutent pas à la rigueur. Ils savent bien que j'ai des communications avec le dehors, ils gardent là-dessus le silence et me traitent assez humainement. Et là encore, la situation ne peut donc s'éterniser et l'empereur Minmang est maintenant résolu à se séparer définitivement de son premier interprète, et celui-ci, lassé, n'aspire plus qu'à la grâce du martyr. Alors, Monsieur François Jacquard est certainement de tous les missionnaires celui dont la vie au Vietnam a été la plus semblable à une interminable détention. Il était arrivé au Vietnam, je vous l'ai dit, en 1826, à la veille de ses 27 ans. Il est arrêté une première fois en 1827, le 14 juillet, par les gardes de la cour, incarcéré à Kong Kang, assigné ensuite quelque temps une résidence forcée surveillée à Duong Song. Mais pour être remis en prison en 1830, condamné aux travaux forcés en 1833, envoyé au centre pénitentiaire de Lao Bao, où les chrétiens étaient nombreux, le bagne se trouve dans les montagnes sur la route du Laos, dans un climat très insalubre, je vous l'ai dit. Puis, finalement, de sa prison, il écrit à sa mère, « Voilà 15 ans, maman, que je vous ai fait mes adieux. Ces 15 ans me semblent un songe, et pourtant j'ai beaucoup souffert. Mais qu'importe, c'est passé. Mes forces diminuent. J'espère que bientôt je ne souffrirai plus, et que mes souffrances endurées pour l'amour de Jésus-Christ, pas pour la religion, hein, pour l'amour de Jésus-Christ, m'obtiendront miséricorde et la vie éternelle. Je continue de former, et toujours avec plus d'ardeur, le désir de mourir martyr. Pendant que je demande cette faveur à Dieu, demandez-la aussi pour moi. Alors, ce qui décide de la mort, c'est la nouvelle apprise à la cour qu'un missionnaire français, le père Kandal, a ouvert une école non loin de la prison de Kamloh dans la chrétienté de Dilwan. Et le roi Minmang fait faire une enquête. On sait que M. François Jacquard, Saint François Jacquard, est en relation avec M. Kandal. Ils s'écrivent des lettres. Il écrit aussi à d'autres chrétiens. Alors le gouverneur de la province vient l'interroger le 7 mars 1838. Très vite, l'interrogatoire glisse sur la question de la correspondance avec le dehors, celle de la foi. Écoutez bien. Enfin, consens-tu à abandonner ta religion? Je n'abandonnerai jamais la religion, dit Saint François Jacquard. Le temps ne fait qu'augmenter mon estime pour elle et ne contribue qu'à me la rendre plus chère. On lui dit, il n'est pas permis de garder cette religion. Le roi Minmang l'a proscrite et les ordres du roi sont ceux du ciel. Si tu t'obstines encore, tu mourras. Il répond, c'est un grand honneur pour moi d'avoir jusqu'à ce jour échappé à la mort. Mais je ne crains pas la mort. Je serai au comble de mes désirs si on me fait mourir pour la religion et pour Jésus-Christ. Et le plus tôt sera le mieux. Alors en prison, M. Jacquard retrouve un jeune séminariste, Thomas Tien, vietnamien évidemment, qui doit être son compagnon de martyr, un séminariste. J'en profite pour saluer deux séminaristes vietnamiens au grand séminaire, deux séminaristes admirables qui viennent de là-bas. Dans les mois qui suivirent, M. François Jacquard est soumis à la torture à plusieurs reprises. Il reçoit des coups de rotin, les tenailles rougies au feu. Et finalement, la sentence est prononcée et envoyée à la cour pour confirmation. Elle revient le 20 septembre sous une forme modifiée. Le coupable, Phan Van Kin, c'est le nom de Jacquard, c'est curieux, Phan Van Kin, est un homme d'Europe, d'une race différente de la nôtre, qui s'est introduit dans ce royaume. Il a d'abord employé la religion perverse de Jésus pour tromper le peuple. Ayant été reconnu coupable de ce crime, nous lui avons fait grâce de la vie. Mais méprisant les lois, il a osé communiquer en secret avec les chrétiens. Il leur a donné les livres de la fausse religion. Il est vrai que, mis à la question, il n'a pas voulu le reconnaître. Mais les dépositions des témoins en sont des preuves suffisantes. Et si le coupable Phan Van Kin, François Jacquard, ne sera pas mis à mort d'une autre manière, il sera étranglé. On a donc un peu pitié. L'exécution a eu lieu le 21 septembre 1838, c'est l'anniversaire. Avec lui fut mis à mort un jeune de 18 ans qui a montré un grand courage dans les supplices. Il se destinait à la prêtrise. Mgr Cuenot écrit de lui au prêtre de Paris, le jeune Thomas Tien, qui vient d'illustrer cette mission par sa mort glorieuse, était âgé de 18 ans. Il a suivi et servi le père Joseph Tau depuis l'âge de 10 ans. M. Vial lui a enseigné le latin pendant quelques mois, et il venait d'arriver à Dilwan par mon ordre pour être du petit établissement qui formait M. Kandal. Il ne vit qu'un seul instant ce cher confrère, qu'il l'envoya se loger chez les chrétiens en attendant que les bruits de persécution que l'on répandait déjà soient disparus. Les soldats, l'ayant rencontré 2 jours après en faisant la perquisition à Dilwan, l'ont soupçonné d'être écolier du père et l'ont arrêté. Je n'ai encore pu savoir jusqu'à quel excès les mandarins l'ont torturé pour le forcer à apostasier. Ce que je sais, c'est qu'il a été torturé et que de tous ceux qui ont été pris à cette occasion, il est le seul qui ait persévéré. Sa constance est d'autant plus admirable que les chrétiens de Dilwan, pour le forcer à apostasier avec eux, refusèrent, dit-on, de partager avec lui la nourriture qu'on leur portait, à tous, en commun, et lui ont reproché d'être cause par son refus de la longueur de cette affaire. Dans sa sentence, il est qualifié de coadjuteur des maîtres de la religion catholique et est condamné à mort pour n'avoir pas voulu consentir à abandonner cette religion. Comme M. Jacquard, il avait été soumis durant la question au terrible supplice des tenailles rougies au feu. Comment, lui disaient les mandarins, peux-tu accepter ces souffrances et ne pas abandonner ta religion? C'est la question posée aux séminaristes. Dussé-je mourir, je n'y renoncerai jamais. Les corps des deux martyrs sont donc exhumés un mois plus tard par les soins d'un médecin vietnamien nommé Simon Hoa, lui-même futur martyr. Les restes de Saint-François Jacquard reposent aujourd'hui dans une chasse, comme je vous ai dit, à la salle des martyrs du séminaire des missions étrangères, rue du Bac, sous la vitrine où est exposée l'énorme chaîne qu'il a portée dans ses prisons. C'est très impressionnant. Les chasses contenant les restes de Thomas Tien et de Simon Hoa se trouvent sous deux autels de la crypte de la chapelle des missions étrangères de Paris, rue du Bac. Sans même parler de son martyr, Saint-François Jacquard a été une personnalité d'exception, c'est pas n'importe qui. Par sa solidité physique et morale, par son courage, ce grand saint, par sa puissance de travail aussi, son extraordinaire don de sympathie que nous constatons tout au long de son existence, eh bien ce grand saint est un modèle pour chacun d'entre nous. Enfin, par la fascination qu'il a exercée sur l'empereur Minh Mang, à propos de laquelle on a évoqué celle de Saint-Jean-Baptiste, évidemment, sur le roi Hérode. C'est flatteur, c'est sûr. Mais, à mon avis, c'est juste. Si vous allez à la messe aujourd'hui, vous penserez à tous ces saints vietnamiens ou ces missionnaires au Vietnam. En lisant la lettre de Saint-Paul, l'apôtre, aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité et de douceur et de patience et supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Il est en chacun de nous. Chacun d'entre nous a reçu le don de la grâce comme le Christ nous l'a partagé. Car il a fait des dons aux hommes et aux femmes, évidemment. Il leur a donné d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Priez pour les séminaristes de grâce. Au terme, dit saint Paul, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Si vous désirez une cassette audio de cette émission, vous téléphonez à Marc-Alexandre, comme toujours. C'est à Montréal, 514. Et son numéro de téléphone, c'est 374-3785. 374-3785. Vous pouvez lui envoyer un fax, une télécopie. 374-6901. 374-6901. Il pourra, au besoin, vous envoyer la liste complète de toutes les émissions. La musique, comme toujours, était choisie par Jean-Pierre Noiseux. Aujourd'hui, il s'agissait d'une œuvre de Sylvius Leopold Weiss, le manuscrit de Londres, interprété par Michel Cardin au luth baroque. Ici Raymond Beaugrand-Champagne qui vous invite à être à l'écoute au besoin ce soir à 10h, si vous en avez manqué des morceaux. Et demain, bien, il sera question, cette fois, de Pierre Lecomte Dunouis, que tout le monde lisait dans les années 50, ce grand biologiste qui a écrit des ouvrages magnifiques et qui est passé du matérialisme de la non-foi scientifique au spiritualisme chrétien et à la foi catholique. Au revoir.